Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Il est un Casanova, tu me prends et tu t'en vas. Mais surtout ne crois pas qu'on va courir après toi. Il faut que tu t'en ailles, Casanova, bye bye.
Casanova, donnez-moi votre parole que je suis la seule.
Vous êtes la seule, elles le sont toutes.
Je connais très bien Casanova. C'est étonnant ce que ça lui ressemble.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Casanova au cinéma, Casanova dans la voix de Nicole Croisille. Est un Casanova, bah c'est un compliment ou pas? Je vous l'ai jamais fait ce compliment, Thomas.
Là, on va voir à la fin de cette interview si c'est un compliment ou pas.
C'est un nom propre qui est entré dans le vocabulaire hein, pour désigner un homme séducteur. Mais qui était Casanova? On est ravis de vous retrouver au micro de la curiosité dans ce nouveau numéro de Notre Temps pour lequel vous travaillez, vous dressez un portrait de ce diable d'homme, comme vous l'appelez. Alors on va commencer par raconter ses faits d'armes, son tableau de chasse. Combien de femmes se vantent-ils d'avoir cueilli?
Alors, ils se vantent. Donc, les biographes pensent qu'on n'est pas loin d'une vérité. Mais c'est vrai que ce qu'on sait de Casanova, on le sait par les mémoires qu'il va écrire à la fin de sa vie, où il va décrire par le menu ces moments de gloire de séducteur, mais aussi ses déconvenues et des moments plus honteux, plus difficiles à avouer. Et donc, dans ses mémoires, il affiche 142 conquêtes consommé.
Homme ou femme?
Alors,
femme.
Femme, jeune,
tout.
Moins jeune, homme. Il essaye tout. C'est un libertin, un libre penseur. C'est-à-dire que ce ne sont pas que les mœurs. C'est aussi une attitude anticonformiste, antidogmatique, contre toute forme d'autorité, singulièrement celle de l'Église, même s'il est croyant. Et donc, il veut essayer. Il essaye, donc il va essayer, il prétend même qu'il a couché avec sa propre fille, ce qui là est un petit peu plus
contesté. C'est des fariboles ça ?
Il y a dans ses mémoires une part romancée qui rend aussi le travail compliqué pour savoir ce qui est avéré. Mais le fait que lui laisse entendre qu'il ait pu avoir une relation incestueuse montre que c'était aussi, comme vous dites, un fait glorieux dont il était tenté de se vanter.
On vient de parler de pornographie pendant la première partie de l'émission. Ouais. C'est pas la même chose, Casanova ?
Alors, pas du tout. Casanova, c'est le contraire d'un pornographe. Il met du sentiment. Il n'est pas du tout dans la mécanique du sexe. Il y a un enjeu sentimental, toujours. C'est ce qui va le différencier aussi de la figure de Don Juan, qui n'a pas existé, mais qui est une figure mythique importante, et où, effectivement, Don Juan, c'est un conquérant. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de faire tomber les proies. Donc il a un rapport un peu mécanique, il serait plus dans ce lien plus pornographique. Casanova est conquis par les femmes, lui. C'est pas lui qui conquiert. Il conquiert. C'est un séducteur. Mais il aime être séduit lui aussi. Et ce qu'il recherche, c'est la relation. Même si, dans ce 18e siècle. Ouais. Très compliqué, très libertin, bien au-delà de la personne de Casanova. Il va avoir des mœurs, il va y avoir de la brutalité. Il va avoir commis des viols.
C'est la question que j'allais vous poser, parce que ce Casanova, il va tout de même faire de la prison. Pourquoi ?
Absolument. Alors, il fait de la prison, pas d'abord pour son libertinage, en aucun cas, puisque l'époque est libertine. Venise, c'est pratiquement une capitale du tourisme sexuel à l'époque. Hein. Donc il n'est pas atypique dans son époque du tout, et ce n'est pas pour ça. Il va aller en prison par une accumulation de choses. C'est un homme du peuple qui s'élève un petit peu trop vite, qui circule un petit peu trop dans les milieux mondains et de la noblesse des patriciens vénitiens. Et puis surtout, il a une amitié qui inquiète, qui est une amitié avec l'abbé de Berny, qui est un Français, qui est l'ambassadeur de France à Venise, et qui lui aussi est extrêmement, on va dire, libidineux même, hein, et il partage une maîtresse. L'abbé de Berny est voyeur, donc on est dans des fantasmes qui vont être partagés, et Casanova est soupçonné, probablement à juste titre, d'espionner pour le compte de la France. Et le principal grief, ça va être ça.
C'est de l'espionnage.
On le soupçonne de l'espionnage, il a des fréquentations qui sont pas... Voilà, et puis, il est insaisissable socialement. Et puis quand même, bon, il couche avec une religieuse, il fait des choses un peu problématiques à découvert. Sous le masque vénitien, il peut se passer beaucoup de choses, mais quand le masque tombe, il accumule un peu trop de, Voilà, donc il va être effectivement arrêté, emprisonné à la prison des Plombs à Venise.
Giacomo Girolamo Casanova, j'essaye, né à Venise le 2 avril 1725. Il est dans quel milieu ?
Milieu populaire. Ses parents sont tous les deux comédiens. Il va d'ailleurs, enfant, pas tellement les voir parce qu'ils vont partir en tournée beaucoup. C'est sa grand-mère qui va s'occuper de lui, donc il est dans un milieu assez féminin. Son père meurt quand il a 8 ans. Et sa mère va vraiment faire des grandes tournées, devenir assez célèbre, une comédienne assez célèbre. Donc il va assez peu les voir, mais il va quand même grandir dans cet environnement d'une troupe de théâtre, au théâtre Saint-Samuel, qui est le quartier dans lequel il grandit, autour de l'église Saint-Samuel. Et il va apprendre aussi beaucoup de ça. Parce que c'est un libertin, c'est un aventurier, c'est un escroc aussi, qui embobine.
Ça, on va raconter ça tout à l'heure.
Voilà, et qui apprend beaucoup de ce qu'est un acteur, le paraître, le jeu, la manipulation.
Mais Florence Monteil, est-ce qu'il était beau, Casanova ?
Non, il n'est pas réputé beau. Les descriptions qui sont faites de lui, j'ai pris un petit extrait de citation parce qu'il y a un de ses contemporains qui est un peu plus jeune que lui, mais qui l'a connu sur la deuxième moitié de sa vie, le prince de Ligne, qui a écrit de lui « Ce serait un bien bel homme s'il n'était pas laid. Il est grand, bâti en Hercule, effectivement, il faisait 1m85, mais un teint africain, des yeux vifs, plein d'esprit à la vérité, mais qui annonce toujours la susceptibilité. » Donc ses yeux, ça a beaucoup fait, il y a beaucoup de commentaires sur son regard, la vivacité de son regard, mais il avait un teint bistre et il n'était pas connu pour être beau.
Casanova a eu 142 conquêtes, connues en tout cas, mais il a été amoureux aussi à en mourir. Vous allez rencontrer dans un instant la femme qui l'a rendu totalement fou.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité, c'est du lundi au jeudi en direct de 20h à 22h sur RTL. Et on a le bonheur de découvrir un de ces destins extraordinaires comme on les aime grâce à Florence Monteil, journaliste au magazine Notre Temps. C'est en partenariat avec RTL, un portrait de Casanova, Giacomo Casanova. André Facetta, notre réalisateur, disait bon, si on l'appelait Jacques Maisonneuve, ça serait moins glamour.
Mais ça plairait peut-être aux Italiens.
C'est pas faux. Alors moi, j'ai découvert, parce que j'avais un petit vernis de culture sur Casanova, que ce Casanova a été prêtre.
Oui, c'est inattendu.
Ben oui.
C'est-à-dire que le libertin, le libre penseur, n'est pas forcément athée. Certains l'étaient, mais pas forcément athée. C'est l'Église qui lui pose problème. Pourtant, il est très brillant. Il va faire des études, il va aller à l'université de Padoue très, très jeune, et il va viser la prêtrise. Donc, il va recevoir la tonsure, il va être ordonné. À 16 ans, il entre dans une carrière ecclésiastique.
Il ne resterait pas longtemps, pourquoi ?
Il ne va pas durer très très longtemps, parce que les sermons dégénèrent, que notamment il va en faire un près de 19 ans où il est un peu trop bu, et donc ça va s'entendre. Et donc, de toute façon, il ne pourra plus faire de sermons. Il va continuer un petit peu cette carrière ecclésiastique avec des protecteurs, des grands protecteurs, et puis il va complètement renoncer.
Là où il excelle le mieux, Casanova, c'est quand même l'amour. Alors l'homme aux 142 conquêtes a été très amoureux. Tout commence avec une certaine Henriette.
Alors,
qui est-elle ?
Son premier amour, c'est quand même à 15 ans. Il commence sa carrière de séducteur à 15 ans. Et il va, vers 24 ans, rencontrer un jeune homme qui le trouble et qui s'avère être en fait une femme, une jeune aristocrate qui fuit sa famille, déguisée. Enfin, c'est extraordinairement romanesque et tout à fait crédible parce que le déguisement, les masques, les faux noms, les pseudonymes, c'était tout à fait...
C'est très vénitien.
C'était des pratiques qui étaient vraiment très courantes. Et donc, il va tomber extrêmement amoureux de cette femme qui est réputée être vraiment son grand amour parce qu'ils vont être sur un pied d'égalité. Ils vont vraiment vivre un moment de liberté ensemble. Elle va le connaître, le comprendre vraiment. Elle va même, quand ils vont décidé d'un commun accord de se séparer parce que c'est plus tenable, elle doit retrouver sa vie. Elle va graver sur une fenêtre « Tu oublieras aussi Henriette », qui est une façon de le défier un petit peu. Et lui, dans ses mémoires, raconte que ça ne le console pas du tout.
Ah oui, s'il voit ça tous les matins en regardant par sa fenêtre, c'est compliqué.
Et voilà, Henriette, ça va rester... Il va y avoir évidemment d'autres conquêtes et d'autres amours, mais Henriette est vraiment
l'amour étalon. si je me permets le jeu de mots.
Il vous appartient.
C'est délicat.
J'ai une manifestement, Florence Monteil a décidé de vous laisser cette expression.
Non, mais, j'en suis très fière.
Dans la légende, on essaie de comprendre aussi pourquoi Casanova est devenu une légende de son vivant. Et dans cet aspect légendaire, il y a l'histoire de la prison. Absolument. Il faut peut-être le raconter rapidement. Ouais. Vous nous avez dit qu'il a été en prison à Venise, dans la prison des plombs de Venise. Et il va s'en échapper,
c'est
ce qui semble extraordinaire à l'époque.
C'est le seul à le faire, c'était impensable, une évasion, et il va y arriver avec beaucoup d'intelligence et de panache. Il va réussir à subtiliser un petit morceau de fer lors d'une promenade, il va crocheter la serrure. Il avait avec lui les habits de noces qu'il portait quand il a été arrêté, il va les mettre.
Donc il s'habille richement.
Il s'habille richement, et avec l'aplomb dont il était capable, sans mauvais jeu de mots, il va sortir. Et il va interpeller un gardien en disant « Je me suis perdu, comment on fait pour sortir d'ici ?» On va lui ouvrir les portes, il va sortir par la grande porte. Donc ça c'est effectivement, ça dit beaucoup de choses. Oui, sur
ça me rappelle l'évasion par fax d'une prison corse. Ça. Il faut tout oser et ça marche. Quoi,
voilà, et bien sûr que ça va contribuer à sa légende parce qu'il va raconter. Donc il devient fugitif à ce moment-là, hein. Oui. Il a 31 ans et il doit quitter la République de Venise qui est un crève-cœur pour lui parce qu'il est profondément vénitien, attaché à sa patrie. Mais là, il est obligé de quitter Venise parce c'est un fugitif. Pendant 20 ans, il va parcourir l'Europe, puis il va l'écrire, Histoire de ma fuite, et ça va contribuer effectivement de son vivant à sa légende.
Il est fort en marketing, en fait. Il sait se vendre, Casanova.
Oui, oui. Et il y a même une histoire où il raconte dans une cour, il dit, je vais vous raconter, un grand personnage lui dit, oui, mais alors rapidement, il dit, c'est pas possible, il me faut 2 heures, il dit, non, 2 heures, allez à l'essentiel, mais il dit, 2 heures, c'est en allant à l'essentiel. Donc il avait le sens, effectivement, de la narration, de la mise en scène. Et c'était son art de la séduction, c'était l'art de la conversation, puisqu'il n'était pas beau, il n'était pas riche. Donc ce qui faisait de lui un homme profondément séducteur, c'était qu'il était intelligent, savant, et qu'il parlait très très bien. Il maîtrisait cet art de la conversation, qui est une chose très importante au XVIIIe siècle.
Est-ce que c'est ce qui a séduit son deuxième amour à Casanova, qui s'appelle... Quel nom ? La Charpillon.
Ah bah, il n'arrive pas à la séduire, c'est bien le problème. C'est-à-dire que la Charpillon.
Ah, c'est le défi.
La Charpillon, c'est une
c'est
jeune,
pas un beau programme, ça, la Charpillon, ça veut dire.
Non,
quoi ?
Déjà, c'est vrai que alors, c'était un de ses nombreux noms, surnoms. Elle a 17 ans quand il la rencontre. Il en a 38. Et 38 ans, à l'époque, ça commence à être un âge avancé. Donc, il n'a plus cette prime jeunesse, il n'a plus cette toute puissance de séducteur. Et elle va se jouer de lui, elle va à la fois le séduire et le repousser, et ça va le désespérer parce qu'il va comprendre à ce moment-là qu'il n'est en effet plus le grand séducteur qu'il a été, que c'est un peu le début de sa vieillesse.
Oui, dans votre article dans le magazine Notre Temps, en partenariat avec RTL, Florence Monteil, vous citez Casanova, il écrit à propos de cette rencontre. Ce fut dans ce fatal jour du commencement de septembre 1763 que j'ai commencé à mourir et que j'ai fini de vivre, j'avais 38 ans.
Ouais.
Parce qu'il est tellement affligé par cette relation qu'il fait quoi, Casanova ?
Il va être tenté de se suicider, c'est-à-dire qu'il va traîner sur un pont, ça se passe à Londres, et il va vraiment sérieusement penser à se suicider. Et puis, bon, il va croiser quelqu'un qu'il connaît, et ça va l'embarquer vers autre chose, c'est aussi ça l'aventurier. Mais à un moment, il va souvent avoir cette tentation du suicide par détresse, par chagrin, de la même façon qu'il fait une très grande dépression après la rupture avec Henriette. Donc c'était un homme qui avait des sentiments et qui tombait amoureux, contrairement un peu à la légende qu'a pu se construire.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, jusqu'à 15h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ne croyez pas ce qu'on dit. Je ne suis pas un conquérant, je me soumets. Ce n'est pas la gloire que je recherche dans l'amour.
Mais alors, qu'est-ce donc, Signor Casanova ?
Un moment d'éternité.
Je suis pas le mec qui promet l'amour. Je fais avec ce que la nature m'a accordé. On dit de moi.
Oh, Casanova.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Casanova chanté par le groupe Lou and the Bananas, vous en souvenez, Thomas? Évidemment, c'était dans votre Walkman
danser,
dans les années 80.
Mon baladeur.
Portrait d'un libertin dans La Curiosité, c'est la journaliste Florence Monteil, sociétaire de La Curiosité et du magazine Notre Temps, bien sûr, parce que c'est votre emploi principal quand même,
hein,
qui nous dévoile la complexité du personnage. Alors on l'a raconté, 15 mois de prison pour ce Casanova en 1756, il s'échappe, il est interdit de Venise pendant plus de 20 ans, sa terre natale, et ça va lui ouvrir les portes du monde. Il va voyager un peu partout en Europe, dans quel but ?
De vivre et de faire fortune, puisqu'il est, il est chassé de sa patrie, de facto fugitif. Et donc, il va essayer de se construire une fortune par des moyens un peu douteux. Donc, on l'évoquait, il va quand même faire quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il va créer la première loterie nationale. Quand il quitte Venise, fugitif, il va d'abord en France. Il y a des amis, l'abbé Berny dont on parlait tout à l'heure. Et il va approcher Louis XV, la Pompadour, enfin parce
comme
que l'abbé Berny est devenu ministre. Donc il rentre dans des cercles.
Attendez,
là.
L'abbé Berny, libertin et, oui, et voyeur, est lui, devenu ministre.
Absolument.
C'était vraiment une drôle d'époque.
Tout était possible.
Mais oui,
hein.
Voilà, il faut le resituer dans cette époque, Casanova. Et donc il va en France. Il va avoir une idée, parce qu'il participe à la levée de fonds pour une école militaire, et il a l'idée de faire parier les gens sur un tirage de chiffres. Voilà. Donc, cette idée-là,
avec notre loto à nous,
la première loterie.
C'est là qu'est né Jean-Pierre Foucault, vous croyez ? Non, quand même pas, il est plus jeune que ça, Jean-Pierre. Non,
André,
je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il est beau comme un cœur.
Il nous balance le fond sonore du loto d'un seul coup. C'est l'anachronisme absolu, on est en train de parler de Casanova, on est au 18e, oui. on l'imagine en guêtre.
C'est le premier à avoir pensé le principe de la loterie.
C'est incroyable.
C'est dingue. Voilà.
C'est à lui qu'on doit ça.
Alors, c'était une escroquerie, en fait.
Non, ça, c'est une des fois où il a été honnête. Parce qu'il s'était effectivement vraiment un aventurier au sens escroc aussi, oui. Mais pour la loterie, là, c'est une vraie démarche honnête. Il va d'ailleurs faire fortune, il va la perdre très rapidement, mais là, c'était honnête. L'escroc, à la même époque, l'escroc, c'est le tricheur aux cartes, et c'est surtout un homme qui, grâce à son savoir, va se faire passer pour un alchimiste. Il est contemporain du comte de Saint-Germain, de Cagliostro, ces personnages troubles qui vendent une espèce de rêve de vie éternelle, et il va arnaquer littéralement pendant des années la marquise d'Urfé, qui est une Française.
Alors racontez-nous cette histoire en détail, c'est hallucinant.
C'est étonnant parce qu'il va la rencontrer, elle a une vingtaine d'années de plus que lui, donc on est en 1757, et elle est éprise, elle, d'alchimie, de sciences occultes. Mmh. Lui, il a déjà mis en place un système qui est une pyramide de décryptage de l'univers, qui est censé lui permettre, pyramide de chiffres, qui est censé lui permettre de donner des réponses à toutes questions posées. En fait, c'est un gros malin, fin psychologue, et qui devine, qui a l'intuition des désirs, des réponses.
Et des faiblesses des gens.
Et des faiblesses, qui va donc se jouer de ça, et qui va complètement embobiner la marquise d'Urfé, au point de lui promettre une régénération. C'est-à-dire qu'il lui dit qu'il va lui faire un enfant, que cet enfant va accueillir l'âme de la marquise d'Urfé, qui va donc se régénérer, se réincarner dans ce nouveau-né. Donc il va quand même jusqu'à faire la cérémonie.
Il va coucher un peu
dame,
avec elle, alors
Beaucoup.
Plusieurs fois pour que ça marche.
Il dit qu'il a besoin d'un accessoire, pas pour coucher avec elle, mais pour que la régénération fonctionne.
Alors, c'est
lequel?
Des pierres précieuses,
ah bah oui,
parce
au
que
hasard.
Il va quand même la dépouiller. Oui. Puis dans son projet, il a aussi le projet d'être le tuteur de ce nouveau-né, tuteur aussi de la fortune qui était immense de la dame.
Ça va marcher?
Je ne sais pas.
Ça n'a pas été raconté.
Vous m'inquiétez un tout petit peu.
Pas la régénération, la naissance de l'enfant.
Nous sommes candides.
Elle avait 20 ans de plus, elle avait près de 60 ans quand
ça
produit.
Pouvait pas marcher, alors.
Elle a vécu encore une dizaine d'années. Pour une bonne partie de ces 10 ans, elle s'est fait escroquer par Casanova.
Il a rencontré la marquise d'Urfé grâce à son neveu, monsieur de la Tour d'Auvergne. Il lui avait soigné une sciatique déjà, Casanova.
Oui, alors,
de quelle manière?
C'est intéressant parce qu'il avait des notions de médecine, Casanova. Il faut vraiment avoir en tête que c'était un savant.
Florence Monteil, vous nous avez décrit un beau parleur. Était-ce aussi un écrivain de talent?
Un grand écrivain. C'est pour ça qu'on le connaît. C'est pas parce que c'était un libertin. Nous, on a retenu ça parce qu'il y a quelque chose qui est évidemment assez fascinant là-dedans et qu'on méconnaît sur cette époque qui nous trouble. Mais si on connaît Casanova, c'est pas parce que c'était un grand libertin. C'est parce que c'était un grand écrivain. Il écrivait en français. Il a une œuvre qui est bien au-delà de ses mémoires, qui est une œuvre énorme. Il a écrit pendant 9 ans. Il a commencé au moment de la Révolution française, qui l'a complètement déprimé parce que, bien que libre penseur, il appartenait à l'Ancien Régime, et cette Révolution française l'a beaucoup abattu. Et il est vieux, il est devenu bibliothécaire en Bohême, l'actuelle République tchèque, Et pour vivre, revivre le passé et lutter contre une dépression qu'il va vraiment décrire comme telle, il va revivre sa vie en la racontant. Et il le fait en français, il parle parfaitement français, avec une langue inventive, d'une très grande modernité. Vous avez vu ce que vous avez lu tout à l'heure. Oui. Il écrit bien, il a une pensée très élaborée. Il va d'ailleurs voisiner des grands penseurs. Hein. Il rencontre Voltaire, Diderot, Rousseau, Goethe. Il écrit à Robespierre pour lui dire tout ce qu'il pense
de
l'horreur, de la terreur, etc. C'est un intellectuel.
Et c'est cette histoire passionnante que vous racontez, Florence Monteil, dans le magazine Notre Temps dans vos kiosques. Merci, à très bientôt, micro de la curiosité.
À bientôt.
Merci Florence, à bientôt. C'est la fin de cette curiosité du week-end, mais ne soyez pas trop tristes. On sera là demain soir, dès 20h sur RTL.
Avec un beau programme, pourquoi avons-nous des accents dans nos régions?
À bientôt, avec mes petits papiers.
Pourquoi Pasqua, imité par Gérard, a-t-il l'accent du Sud? On répondra aussi à cette question. Et puis on vous racontera des secrets d'espionnes, oui, et des femmes.
Ah oui, et puis une curiosité sur le temps, pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe.
Bonne fin de week-end, les curieux, dans un instant, petit Vénard, vous retrouvez Éric Jean-Jean et son 100% live.